on a construit ce duo, qui n'est jamais un duo d'ailleurs, puisque nous on joue toujours dans des formations différentes, en quartet, en quintet, en sextet, et aujourd'hui soir on est en big band d'ailleurs, qui est notre dernier double album en réalité. Hein, et sinon on a sept ou huit albums, ouais. Donc voilà.
Ça marche. Et donc là, vous êtes un Multiquarium Big Band. Multiquarium, c'est le nom de votre avant-dernier album.
Exact.
Donc c'est un nom un peu exotique qui éveille la curiosité. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça recouvre?
Alors, oui, en fait, c'est un mot qui veut rien dire. Multiquarium, mais en même temps qui peut évoquer... je sais pas, ça peut faire penser à un espace aquatique où voilà, chacun va se l'imaginer. C'est vrai que c'est le nom de notre dernier album en sextet, et on trouvait que c'est un nom qui pouvait bien coller avec le Big Band, qui est notre dernier projet. Et c'est une aventure, hein, un Big Band, 18 musiciens. Alors, en fait, pour parler un petit peu de ce Big Band, on a confié des morceaux qui extraits de nos derniers albums, d'au moins 4 albums, à 2 arrangeurs, Pierre Drevet et Karine Bonnefoy. Et donc, la musique a pris une autre figure, une autre image, avec jouer en grand format. Donc pour nous, c'est vraiment une super expérience, quoi.
D'accord. Et pourquoi avoir choisi le nom de votre avant-dernier album pour le donner à votre Big Band ?
Parce que tout simplement, on aimait ce nom Multiquarium, on se l'est approprié, puis on s'est dit, si on y adjoint le mot Big Band, ça nous va bien avec le mélange de couleurs qui est évoqué dans ce répertoire. Donc Multiquarium Big Band, ça a donné nom à ce projet, quoi.
D'accord. Et comment on effectue la transition, presque la traduction, d'une musique qui se joue en petite formation à une musique qui se joue sur un grand ensemble comme ça? Comment on l'adapte, quoi?
Donc une fois les arrangements faits, les arrangeurs sont partis de nos compositions, et donc chacun met un petit peu de leur patte, mais après c'est une autre distribution, une autre, d'autres couleurs. Tout d'un coup il y a des pupitres de cuivre qui apparaissent, des saxes, la rythmique, on joue, finalement on a gardé plus ou moins les formes quand même des morceaux, mais c'est vrai que les morceaux ont pris une autre forme, quoi, une autre couleur. Donc il faut adapter. C'est vrai qu'on joue pas du tout, les morceaux sont les mêmes, mais on les joue pas de la même manière quand c'est en sextet ou en quintet. Là il faut raisonner à on est à 18, c'est pas la même chose, les solos sont distribués différemment, évidemment. Puis on a la chance d'avoir des excellents musiciens avec nous là, donc on essaie de que tout le monde joue, tout le monde puisse s'exprimer, enfin voilà, donc c'est une redistribution de la musique.
D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qui change dans votre jeu de batterie ou de piano pour vous deux, par exemple ?
Le big band est toujours le fantasme des batteurs, puisque dans un big band, le batteur a beaucoup d'importance, puisqu'il doit essayer de faire coller toute cette masse de cuivre. Et donc, souvent, il y a un gros travail, quoi. Donc, c'était aussi un challenge de monter ce big band. Donc le jeu après interactif avec les solistes est le même jeu qu'en quartet ou en quintet. Mais c'est quand même un truc très très sympa d'entendre des compositions que l'on a fait avec Benoît et qui sonnent comme ça avec cette masse de cuivre, c'est formidable.
Et pourquoi est-ce que vos compositions se prêtaient à cet exercice-là ?
Oui, alors ça c'est une bonne question. Il se trouve qu'on a eu cette intuition depuis un moment. On pensait que cette musique... Nous, on écrit des morceaux qui sont assez... avec des à-pics, comme dirait notre ami François Lacharme, des à-pics vertigineux, c'est un peu des morceaux en montagne russe parfois, avec des différents climats. Les formes sont assez... pas complexes, mais en tout cas, c'est jamais juste un thème A-B, il y a beaucoup de formes différentes. Et donc, c'est une musique qui se prête complètement au Big Band, justement, parce qu'il y a beaucoup de contraste. On l'avait toujours pensé, mais là c'est vrai qu'on l'a réalisé vraiment en entendant les morceaux la première fois.
D'accord. Et c'est cette multiplicité d'instruments qui permet de faire ressortir ces contrastes davantage.
Exactement. Et puis sur ce qui va changer beaucoup avec un big band, c'est que tout le rôle harmonique est joué par les cuivres ou alors par les pupitres de sax. C'est des choses qui vraiment ça permet de mettre en exergue tous les moments un peu tous les moments très harmoniques. Il va y avoir des c'est pas du tout dans un sextet ou un quintet, c'est le guitariste ou le pianiste qui joue les accords. Là, tout d'un coup, les accords sont joués par au moins 8-9 musiciens, et ça, ça change énormément.
Qu'est-ce que ça change?
Ah, c'est bien, la question est précise. Bah, ça change, la dynamique change.
Le son change complètement. Ouais.
Et puis, l'arrangeur ne se contente pas simplement de jouer des accords, comme un pianiste ou un guitariste, il distribue. C'est-à-dire que les accords sont joués vraiment de manière horizontale, donc il va y avoir des voix différentes, des contre-champs, donc énormément de... Tout d'un coup, la musique, elle prend une forme 3D, quoi.
Oui, avec un jeu rythmique également pour faire vivre toutes ces voix. De cuivre, un jeu rythmique qui se met en place avec l'arrangement et qui donne une couleur complètement autre que le morceau initial, quoi.
D'accord, donc c'est pour reprendre un terme plus profane, c'est plus nuancé,
c'est plus contrasté. C'est plus contrasté, les fortés sont extrêmement forts, les nuances piano, justement, là, les arrangeurs travaillent sur la texture des cuivres et des bois pour avoir des nappes de son extrêmement douces. Oui, c'est forcément plus contrasté.
Ok, ça marche. Hop, je change de côté. Alors, dans votre avant-dernier album et dans votre dernier album, ce que j'ai pu en entendre, il y a eu un métissage stylistique, presque géographique, assez poussé. Est-ce que c'est quelque chose qui est récent dans votre méthode de composition ou alors c'est originel dans votre association?
Bon, c'est originel dans l'association, oui. C'est-à-dire que c'est toujours évidemment à base de jazz, mais on aime bien voyager comme ça entre le Brésil, la musique musique bretonne,
l'Afrique.
Donc on se cloisonne pas à quelque chose, on essaye de faire nos mélanges et de trouver un son, quoi.
D'accord. Et est-ce que c'est un mélange qui est réfléchi en se disant les caractéristiques de ce style-là avec les caractéristiques de ce style-là, ça va rendre quelque chose de bien, ou c'est un processus plus organique au fil des rencontres?
Oui, c'est beaucoup plus organique, c'est plus instinctif, c'est même empirique. Des fois, on essaye des choses. Là, on a un morceau, par exemple, qui est un reel, donc irlandais, mais il y a du didgeridoo, donc voilà, un morceau qui s'appelle Aboriginal Reel. Bah, qui est complètement un mélange improbable entre la musique australienne, le didgeridoo et le reel irlandais, qui a priori ne se rencontrent pas. Nous, dans notre disque, on a essayé, et puis finalement, c'était très empirique, mais ça a marché, quoi, ça a marché. Alors là, sur scène, on n'a pas le didgeridoo, mais on le joue quand même, le morceau.
D'accord, et vous allez le rendre comment, ce didgeridoo?
Alors sans le didgeridoo, bah, on fait d'autres effets sur scène, mais non, on ne peut pas le remplacer.
Ok, très bien. Et du coup, ça, c'est quelque chose que... Comment est-ce que vous avez l'idée de mélanger, par exemple, la musique celtique et le didgeridoo? Est-ce que c'est au hasard des voyages?
Oui, c'est ça. C'est complètement... c'est le hasard. Il se trouve qu'on avait un ami qui était un de mes élèves pianistes, qui s'appelle Richard Power, qui était d'abord un excellent pianiste, mais aussi qui fabriquait des didgeridoo, il en jouait. Et moi, je l'avais entendu jouer dans son trio. Voilà, puis c'est un peu le hasard, et ça m'a donné envie d'essayer qu'ils viennent jouer dans le morceau. On s'est dit que ça serait super qu'ils viennent jouer du didgeridoo dans ce morceau. On sentait que ça pouvait le faire, quoi. Mais c'était vraiment c'est pas plus réfléchi que ça, c'est une idée, un essai, et puis ça a fonctionné, quoi.
D'accord. Et comment on mêle d'une part ces références à d'autres styles, ces références au jazz des années 50 et d'un côté, et de l'autre, la recherche de fraîcheur et de comment ça marche?
Ça, c'est compliqué, mais il ne faut pas trop se poser de questions. C'est-à-dire que nous, on est très attachés quand même à la tradition. On a une culture assez... On aime le jazz dans sa tradition, on a écouté beaucoup de choses. On enseigne aussi cette musique, donc on est tout le temps baigné, on revient avec des retours en arrière. Et en même temps, on écoute ce qui se fait aujourd'hui, on n'est pas fermé, on n'est pas des puristes de tel ou tel bebop ou je sais pas, le style. Donc voilà.
On cherche toujours, à mon avis, toujours, comme dit Benoît, avec un grand respect de la tradition, de ne pas faire un disque de choses qui ont déjà été faites, quoi. Donc alors, il y a aussi ce souci-là de se dire, tiens, quand je mélange ça et ça, ou pas, mais c'est excitant d'entendre qu'il y a un son qui arrive, que c'est un son avec l'orgue, ça, qu'on a du mal à identifier. Donc là, ça, pour nous, c'est intéressant. Donc on fonctionne aussi au coup de cœur. Hein.
D'accord. Et justement, comment vous faites pour garder cette nouveauté malgré ces références appuyées, quoi?
Ça, c'est justement la magie de la rencontre avec Benoît, c'est que C'est, on ne sait pas, on fait fonctionner nos oreilles et on travaille. Quoi. Et puis on trouve.
Oui,
c'est pas un processus intellectuel.
C'est pas réfléchi, on ne se dit pas il faut que absolument innover. Ou, on sait très bien que de toute façon aujourd'hui, innover en musique, ça ne veut plus dire grand-chose. Tout le monde fait des mélanges de plein de choses, mais l'invention pure, je ne sais pas si ça existe encore. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous différents. Donc nous, voilà, on a une personnalité, elle est ce qu'elle est, mais à deux, ça la rend encore plus singulière. Et donc ça suffit pour, de toute façon, déjà à nous deux, on a un son. Bon après, voilà, on se dit pas on va être original. On est de toute façon tout le monde. Tous les musiciens ont tous une personnalité. Il faut pas forcer les choses. Les choses, elles sont là et ça sort comme ça. Bon, bah, c'est pas plus réfléchi que ça, quoi.
D'accord. Donc c'est plus une nouveauté finalement qui provient de des références que masque votre identité.
Certainement.
Oui, c'est un mixage de cultures qu'on aime. Hein. On peut jamais aller chercher quelque chose du néant. Donc on va toujours chercher dans notre culture personnelle. Donc si tu as une culture ouverte sur plein de musique, y a des petits mélanges qui se font dans ta tête. Et si tu n'écoutes qu'une chose, évidemment, tu vas pas pouvoir mélanger les choses. Ouais.